carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, 6 années de sécheresse, des robinets à sec en ville et un modèle agricole très gourmand dans les campagnes. L'eau est plus que jamais une priorité politique pour le royaume marocain. Face à la crise de l'eau, le pays invente des solutions. Aux barrages qui ont marqué la politique du roi Hassan II a succédé la stratégie du souverain actuel, Mohamed VI, et un plan chiffré à 13 milliards d'euros pour assurer la sécurité hydrique du pays. Dans ce plan sont prévues usines de dessalement et stations d'épuration notamment. Mais cela sera-t-il suffisant? En plus du changement climatique qui accentue la sécheresse, le Maroc se transforme, les habitudes alimentaires changent et le pays consomme de plus en plus d'eau. Nous en parlons avec notre invité, Ali Hatimi, ingénieur agronome, membre de l'ONG Nitidae et cofondateur du média en ligne Neshfat. Mais d'abord, nous allons à Casablanca. La capitale économique du Maroc et sa région, près de 7 millions d'habitants, confrontés désormais aux coupures d'eau, les autorités font tout pour qu'elles ne se retrouvent pas à sec. Le reportage de notre correspondant Mathias Reynal.
C'était un geste plutôt banal jusqu'ici à Casablanca, faire couler l'eau au robinet.
Ce bruit-là, on l'entend plus entre 23h et 6h du matin.
Zakaria est le patron de ce salon de coiffure. Depuis l'été, dans son quartier au centre-ville de Casablanca, le débit de l'eau baisse la nuit. Elle n'arrive plus jusqu'au troisième étage de l'immeuble où il habite.
Ça fait plus d'une vingtaine d'années que j'habite ici et c'est la première fois que ça arrive.
Zakaria a dû s'adapter.
J'ai un baril de 30 litres pour stocker de l'eau et des bidons que je remplis pour la nuit. Je demande à mes enfants qui dorment tard l'été d'utiliser les toilettes avant 23h pour ne pas avoir de problème.
Alors pour sa famille nombreuse, Zakaria a 4 enfants, cela demande une bonne organisation. Pour autant, il n'est pas en colère.
Pour moi, si c'est dans l'intérêt de tout le monde de réduire le débit de l'eau, je n'y vois pas d'inconvénient. La vérité, c'est que cette mesure m'a permis de changer mes habitudes. Utiliser un bidon, ce n'est pas comme avoir de l'eau au robinet.
Mais Zakaria craint pour l'avenir.
Ça m'inquiète que l'eau se raréfie et je ne suis pas le seul. Je pense que tous les Marocains savent qu'on manque d'eau.
Moulay Hamda Filal, vice-maire adjoint à la maire de Casablanca, chargé de nettoiement et de l'eau.
À Casablanca, l'équipe municipale a fait face cet été à une situation critique.
Le barrage qui donne à Casablanca l'eau, c'est le barrage de Messira. Il est à 1,5% de remplissage. Ça veut dire la quantité qu'on donne aux Casablancais par jour, on ne pouvait plus la donner, on n'a plus d'eau.
La mise en œuvre du grand projet d'autoroute de l'eau qui relie désormais 2 bassins hydrauliques est arrivée à point nommé. Il a permis d'éviter les coupures.
Ce projet de gouvernement, il était très important pour nous, très important pour les Casablancais, mais en même temps, on a pris des décisions comme diminuer le débit de 10h du soir à 7h du matin.
Sensibilisation des populations, rénovation des canalisations, autant de défis que le vice-maire promet de relever avec son équipe. Les fuites représenteraient jusqu'à 33% des volumes d'eau potable distribués à Casablanca. Sur le front du stress hydrique, l'État marocain a lancé ces dernières années de nombreux projets d'infrastructures coûteux, notamment la construction de stations de dessalement de l'eau de mer. La plus grande d'Afrique est en travaux à 40 km de Casablanca, mais le Maroc mise aussi sur le recyclage des eaux usées. À Casablanca, une station d'épuration arrose depuis cet été les espaces verts.
Elle n'était pas branchée par des canalisations pour amener l'eau réusée, l'eau traitée à ces espaces verts. C'est en un temps record, on a fait ça. En 3 mois, c'était un défi pour la réaliser parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de sécheresse, il n'y avait pas d'eau, c'était l'été, tous les espaces verts allaient disparaître.
Le long de la route qui mène à la banlieue sud de Casablanca, les plates-bandes sont drues, gorgées de chlorophylle. C'est grâce à la station d'épuration de Mediouna. Mohamed Ajraoui est le chef épuration et réutilisation au sein de la SRM, société régionale multiservice qui gère l'eau de Casablanca.
Pour le projet de Casablanca, leurs besoins, c'est entre 2000 et 3000 pour cette époque-là. Mais avec l'extension de la ville, avec l'extension des espaces verts, ce besoin-là va s'accroître au fur et à mesure.
Entre 2000 et 3000 mètres cubes d'eau par jour. Vu de l'extérieur, c'est une usine comme les autres. À l'intérieur, trois étapes principales permettent de transformer l'eau usée des habitants de Medioune et des usines de la zone en eau claire. D'abord, il y a l'élimination des particules les plus grosses, puis le passage en bassin biologique pour éliminer la pollution chimique et les déchets fécaux.
C'est de la pollution qui est de l'ordre de quelques micromètres qui passe vers le bassin biologique, qui est juste devant nous. Donc il y a la pollution qui entre, les bactéries commencent à casser les chaînes de pollution.
Des techniques de pointe qui garantissent à la sortie une eau traitée sans danger pour l'environnement et même réutilisable pour les espaces verts ou encore les cultures.
J'ouvre cette vanne pour bien sûr vous montrer la qualité de notre produit fini, qui est l'eau épurée. Donc vous voyez la différence entre l'entrée et la sortie. Elle est très claire et nette. Elle est comparable dans l'aspect visuel à une eau potable. Bien sûr, elle n'est pas potable, mais c'est une eau qui est épurée, de bonne qualité. On est fiers de produire cette qualité qui est très avancée.
Une autre station d'épuration est en travaux pour contribuer à la préservation de la ressource en eau à Casablanca.
Bonjour Ali Hatimi.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome à l'ONG Nitidae. Vous êtes également cofondateur du média marocain Nechfat. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Nechfat, ça veut dire ça a séché en arabe marocain. Donc référence à la sécheresse que connaît le Maroc depuis plus de 6 ans maintenant. Et on a lancé ce média dans ce contexte-là pour essayer de donner plus d'informations aux citoyens marocains sur cette situation-là.
Alors on a vu ces images du désert du Sahara qui a reverdi après des jours de pluie exceptionnelle. Il y a eu des dégâts également, un bilan terrible suite aux inondations. Mais enfin, il y a de l'eau après plus de 6 ans de sécheresse. Comment est-ce que vous avez accueilli cette pluie ?
Avec nuance, parce qu'en fait, on a eu tout un flot d'informations, notamment dans les médias marocains, sur les inondations, sur le retour de la pluie au Maroc. Et en fait, cette pluie n'a pas concerné tout le Maroc. Typiquement, dans la région où moi, j'ai grandi dans le milieu rural, c'est une zone au sud de Casablanca, on n'a quasiment reçu aucune goutte de pluie. Et la majorité du Maroc très agricole, où il y a la majorité des surfaces agricoles, n'a pas connu de pluie. La majorité de la pluie, ça a été dans des zones qui sont au sud de la chaîne de l'Atlas. Donc, c'est soit dans l'anti-Atlas et le Sousse, au sud du Maroc, soit dans le sud-est, dans la région de Ouarzazate, de Zagora, etc., qui sont des régions avec très très peu de surface agricole en dehors des oasis. Et là, effectivement, il y a eu de la pluie à la suite de la remontée d'une masse d'air tropicale d'Afrique de l'Ouest. Et c'était une pluie qui était absolument exceptionnelle. Donc on a eu, typiquement à Zagora où il pleut, 45 mm par an. Donc pour donner un ordre de grandeur, à Fas ou à Paris, c'est de l'ordre de 600 mm par an. Donc Zagora, c'est vraiment une zone désertique, 45 mm par an. Il a plu en l'espace d'une journée 170 mm. Donc l'équivalent de 3 ans de pluviométrie en un jour. Et donc cette quantité de pluie dans une zone au climat désertique et qui, en plus de ça, a été extrêmement affecté par la sécheresse, donc des sols encore plus secs que la moyenne, y compris dans les zones agricoles, ça a été dévastateur. On a eu des rivières qu'on n'avait pas vues depuis des dizaines d'années qui se sont déversées dans les oasis et qui ont détruit les oasis en elles-mêmes, y compris des palmiers qui avaient 30-40 ans, qui sont en réalité, au-delà d'être des arbres fruitiers, qui sont les actifs des agriculteurs. Et donc, dans ces zones-là, il y a un effet positif du retour de la pluie, en tout cas pour les agriculteurs qui n'ont pas été affectés par ces très grosses inondations. Mais il y a eu aussi des pertes colossales de palmiers dattiers, il y a eu des pertes humaines. Donc globalement, on est sur une situation avec beaucoup de dégâts, quelques avantages, mais on ne peut pas parler d'une sortie de crise hydrique pour l'essentiel des surfaces agricoles marocaines.
On sait que l'eau, c'est une priorité politique pour le royaume depuis des décennies. Hassan II avait fait une grande politique de construction des barrages. Le roi Mohamed VI, aujourd'hui, multiplie les projets d'usines de dessalement d'eau de mer. On voit bien à quel point c'est une question qui est prégnante dans les villes, parce qu'il y a des coupures d'eau, mais aussi donc dans les campagnes. Les autorités prennent ça très au sérieux. Est-ce que c'est le bon moyen aujourd'hui de lutter contre la crise hydrique ? C'est un des moyens ?
Effectivement, l'État marocain a toujours pris au sérieux la question de l'eau. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est très célèbre, qui est faussement attribuée au maréchal Lyautey au Maroc, qui dit « gouverner, c'est pleuvoir ». Donc la disponibilité en eau conditionne la puissance de l'État marocain. Et donc au Maroc, on a eu pendant tout le règne de Hassan II une très forte dynamique dans la construction de barrages. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de réutilisation des eaux usées, de dessalement, etc. Au final, l'ensemble de ces projets sont très utiles parce qu'ils augmentent, ils maximisent la ressource en eau au Maroc. Mais on est dans une situation aujourd'hui où la maximisation de la ressource en eau devient de plus en plus chère. Parce que au départ, dans les années 70, quand on construisait des barrages sur un site qui était très propice à construire un barrage, typiquement quand on construisait un barrage sur un affluent de l'Oued Sbou ou de l'Oued Om Rebiaa, qui sont les principaux fleuves du Maroc, alors qu'il n'y avait pas de barrage avant, le barrage se remplissait très vite, le coût du mètre cube était très faible et on arrivait à avoir un stock d'eau très important pour un investissement relativement faible. Progressivement, on a commencé à construire des barrages sur des zones qui étaient moins propices. Donc le coût du mètre cube dans une infrastructure de barrage était plus élevé. Aujourd'hui, on fait de l'eau dessalée. L'eau dessalée coûte à peu près 10 fois plus cher que l'eau d'un barrage. Et donc, on est dans une fuite en avant pour maximiser la ressource en eau. Alors qu'en réalité, le problème structurel au Maroc, c'est un double problème. D'une part, on a moins de ressources en eau pluviale parce qu'il fait plus chaud, conséquence du changement climatique. Et d'autre part, conséquence de l'agriculture, c'est que on commence à avoir une agriculture extrêmement hydrovore. On a des surfaces irriguées qui s'étendent à n'en plus finir, des cultures qui sont de plus en plus hydrovores. On remplace des cultures traditionnelles historiques adaptées au contexte de notre territoire par des cultures qui demandent beaucoup plus d'eau. Et donc, l'agriculture consomme beaucoup plus qu'avant.
Est-ce que l'agriculture consomme plus d'eau qu'avant parce que les habitudes de consommation des Marocains ont changé ou bien parce qu'ils sont pris dans ce mouvement de mondialisation de l'économie des produits agricoles et qu'ils produisent beaucoup pour l'export ?
Le Maroc a une agriculture qui est tournée vers l'exportation depuis très longtemps. D'ailleurs, on peut même remonter au XVIe siècle quand le Maroc était le premier fournisseur en sucre de l'Europe avant que ça ne devienne les Caraïbes et le Brésil. Cette tradition d'agro-exportation au Maroc, elle n'est pas nouvelle. Mais elle a été renforcée par la colonisation. C'est-à-dire que les colons français, quand ils se sont établis au Maroc, et d'ailleurs ils détenaient une large partie des terres et des terres les plus fertiles, ont essayé de trouver une rentabilité à l'agriculture marocaine pour leur modèle d'agriculture. Ils se sont inspirés de l'agriculture californienne. Donc ça, c'était dans les années 20, dans les années 30. Ils se sont dit, ah, on va irriguer pour faire de l'agrumes, pour faire de la tomate, pour exporter en métropole. Et à l'indépendance, ce modèle ex-colonial a été repris par les élites locales et avait des avantages certains qui étaient de faire rentrer des devises au Maroc, notamment. Et donc, on a progressivement de plus en plus investi ce modèle d'agro-exportation jusqu'à en faire le pilier de notre politique de développement agricole dans les années 1980 et bien plus tard. On a par exemple la culture de tomates, les cultures maraîchères. On a tout un périmètre de 70 000 hectares de serre, une véritable mer de plastique au sud d'Agadir qui fait de la tomate, du concombre.
Oui, on le voit sur les marchés français. Quand on se promène à toute époque de l'année, on voit beaucoup de produits qui proviennent du Maroc.
Exactement. Donc il y a ça, il y a les oranges marocaines, il y a les fruits rouges, il y a beaucoup de choses. Donc l'agro-exportation, c'est quelque chose de très important pour le Maroc. C'est très important pour l'économie marocaine. C'est très important pour les emplois ruraux. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on a poussé ce modèle un peu trop loin. On l'a fait sur des surfaces qui sont tellement grandes. La surconsommation, elle se situe à la fois dans ces périmètres maraîchers, elle se situe dans les zones de production d'agrumes, dans les zones de production d'avocats, dans les zones de production de dattes en monoculture. Il y a beaucoup de modèles de monoculture, qu'ils soient destinés à l'exportation ou au marché national, qui sont problématiques. Et en fait, quand je dis que l'agro-exportation a été poussée un peu trop loin, c'est que pour faire des cultures d'exportation, souvent c'est dans des périmètres irrigués. C'est comme ça que c'est rentable. On ne fait pas de la tomate rentable au Maroc avec de l'agriculture pluviale. Mmh. On va systématiquement irriguer.
Ça veut dire, quand on dit qu'on fait de l'irrigation, ça veut dire qu'on va chercher de l'eau fossile dans les nappes phréatiques ?
Pas nécessairement. On peut aller chercher de l'eau dans un barrage quand on est dans un périmètre de barrage. Donc on reçoit une dotation d'un barrage et on irrigue avec. Après, essentiellement depuis le début des années 2000, ce qu'on appelle le plan Maroc vert, donc le cadre de développement agricole du Maroc depuis 2008, a subventionné de 80 à 100% les installations d'irrigation, y compris le goutte-à-goutte, mais aussi donc, la machinerie pour pomper, etc. Et donc ça, c'est effectivement pour accéder aux nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, donc, ce sont des ressources en eau souterraines. Elles peuvent être renouvelables, elles peuvent être fossiles, selon où est-ce qu'on va les chercher. Et après, elles peuvent être renouvelables quand on les pompe à un niveau raisonnable. Maintenant, ce qui se passe au Maroc, c'est qu'on a tellement subventionné l'irrigation, l'irrigation est devenue tellement peu chère qu'elle s'est étendue sur des surfaces absolument faramineuses. On est passé en l'an 2000 d'à peu près 800 000 hectares irrigués essentiellement par des eaux de barrage. et donc 100 000 hectares d'eau souterraine, à aujourd'hui plus d'1 600 000 hectares d'irrigation, dont la moitié d'eau souterraine. Ça veut dire qu'on a multiplié par 8 pratiquement les surfaces irriguées par les eaux souterraines. Et quand on multiplie par 8 ce qu'on prélève de sous nos pieds, on passe d'un niveau de prélèvement qui est soutenable à un volume qui est complètement insoutenable, où on va voir le niveau de la nappe descendre chaque année. Et moi, au niveau de la région où mon père a une exploitation agricole, on est passé, quand j'avais 10 ans, de 60 mètres de profondeur pour chercher l'eau à 200 mètres aujourd'hui. Et ça a beaucoup d'implications, c'est-à-dire que les agriculteurs les plus précaires n'arrivent plus à accéder à l'eau, n'arrivent plus à creuser plus profond. Ce sont les agriculteurs les plus à l'aise qui ont ces cultures d'exportation qui vont continuer à aller dans cette course en profondeur pour chercher de l'eau toujours
plus. Parce qu'ils
plus
peuvent aller chercher des ressources financières pour continuer à aller chercher l'eau. Est-ce que l'alimentation des Marocains pose aussi question aujourd'hui ?
Clairement. En fait, le problème se situe, disons de façon majoritaire, sur les exportations agricoles. On considère aujourd'hui que le Maroc exporte sous forme de fruits et légumes 1,2 milliard de mètres cubes d'eau, essentiellement de l'eau souterraine et fossile. Donc c'est une eau qu'on ne va plus retrouver dans quelques années, c'est de l'eau perdue à jamais. Maintenant, on consomme aussi de l'eau souterraine pour cultiver des produits pour le marché national. Et étant donné que le pouvoir d'achat du Marocain moyen augmente et que son imaginaire aussi du succès ou de manger bien, c'est un imaginaire qui est façonné par le Moyen-Orient, par les États-Unis, etc. On se met à manger de plus en plus de poulet, de laitage, de viande de bœuf, de choses comme ça. Et ce régime alimentaire marocain de 2024 n'a rien à voir avec le régime alimentaire de 1970. En 1970, on consommait par habitant 3 fois plus de légumineuses, donc de protéines végétales, qu'aujourd'hui. Donc notre consommation de fèves, qui est la protéine végétale par excellence au Maroc, s'est complètement écrasée depuis les années 70. Or, la fève, c'est une culture qui est relativement sobre en eau. Aujourd'hui, on a remplacé cette protéine-là par, disons, du lait, par exemple.
Des œufs et du poulet.
Exactement. Donc si on remplace cette protéine-là par des œufs ou du poulet, pour produire de l'œuf ou du poulet industriel, on va importer du maïs et du soja du Brésil. Donc ça va plomber la balance commerciale du Maroc. Pour d'autres produits, par exemple des laitages ou de la viande de bœuf, on va avoir besoin de produire des fourrages, typiquement de la luzerne ou de la veste qui va être irriguée. Et ces fourrages-là sont irrigués le plus souvent avec des eaux souterraines. Et dans un certain temps, en fait, on va être comme d'autres pays du Moyen-Orient, on ne va plus avoir suffisamment d'eau pour exporter, on va avoir suffisamment d'eau uniquement pour irriguer des cultures trop gourmandes en eau, mais pour le marché national. Et donc, réfléchir aussi l'économie d'eau par une réflexion sur notre régime alimentaire, c'est quelque chose de fondamental. On a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de produire, pour manger quoi et qui produit.
Ali Hatimi, ingénieur agronome dans Carrefour du Maghreb sur RFI, et nous nous quittons au son du blues du désert.
لو تطاق ادسين بقانيتا في تكسر طغت هاي جوط وشارنا بس لازم تمر
Terra Kaft à Habib dans Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Gourdeau.